Le Grand Espoir, troisième édition. Introduction. Avant l'apparition du péché, Adam jouissait d'une communion directe avec son Créateur. Mais depuis que l'homme s'est séparé de Dieu en transgressant sa volonté, l'espèce humaine s'est trouvée privée de ce grand privilège. Cependant, le plan de la rédemption a ouvert un chemin qui permet aux habitants de notre monde de maintenir leur relation avec le ciel. Dieu a communiqué avec l'homme par l'intermédiaire de son esprit, et la lumière divine a été transmise au monde par le biais de révélations confiées aux hommes choisis par lui. C'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. Au cours des 25 premiers siècles de l'histoire des hommes, il n'y eut aucune révélation écrite. Ceux qui avaient été enseignés par Dieu communiquaient oralement cette connaissance aux autres, de sorte que celle-ci se transmettait de père en fils au travers des générations successives. La rédaction de la parole ne commença qu'à l'époque de Moïse. Ces révélations inspirées furent alors consignées dans un livre inspiré. Ce travail se poursuivit pendant une longue période de 16 siècles, depuis Moïse, l'historien de la création et de la loi divine, jusqu'à Jean, le rapporteur des vérités les plus sublimes de l'Évangile. La Bible désigne Dieu comme son auteur. Cependant, elle a été rédigée par des mains humaines, et dans le style varié de ses nombreux livres, elle révèle la personnalité de ses différents auteurs. Les vérités qui y sont révélées ont toutes été inspirées de Dieu, mais elles sont toutefois exprimées par des mots d'homme. Le Dieu infini, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, a illuminé l'esprit et le cœur de ses serviteurs. Il leur a donné des rêves et des visions, des symboles et des illustrations. Ceux à qui ces vérités ont été ainsi révélées ont eux-mêmes consigné par écrit la pensée dans la forme du langage humain. Les 10 commandements ont été prononcés par Dieu lui-même et écrits de sa propre main. Leur composition est divine et non humaine. Mais la Bible, porteuse des vérités divines exprimées dans le langage des hommes, révèle en elle-même l'union du divin et de l'humain. C'est la même union qui existait dans la nature du Christ, qui était à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Ce qui est dit du Christ est aussi vrai de la Bible. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous. Rédigée sur plusieurs siècles par des hommes totalement différents de par leur profession sociale, leur profession et leurs capacités intellectuelles et spirituelles, les livres de la Bible présentent un profond contraste dans leur style, ainsi qu'une grande diversité dans la nature des sujets présentés. Leurs différents auteurs ont employé différentes formes d'expression. Souvent, une même vérité est exprimée de manière plus frappante par un auteur que par un autre. Lorsque plusieurs auteurs abordent un sujet sous un autre éclairage et selon d'autres relations, un lecteur superficiel, négligé ou qui entretient des préjugés, s'attardera sur ce qui lui semble être des désaccords ou des contradictions. Alors qu'un lecteur réfléchi, respectueux, faisant preuve d'une étude plus profonde, discernera l'harmonie sous-jacente. Telle qu'elle est présentée par l'intermédiaire d'auteurs différents, la vérité est exposée sous des éclairages très variés. Tel auteur sera plus profondément impressionné par un aspect du sujet. Il saisira donc les éléments qui sont en accord avec son expérience ou sa capacité de perception et d'appréciation. Tel autre percevra un aspect différent. Mais chacun, sous la direction du Saint-Esprit, rapportera ce qui aura le plus profondément impressionné son esprit. Un aspect différent de la vérité dans chaque cas, mais une harmonie parfaite dans l'ensemble. Les vérités ainsi révélées s'unissent pour former un tout parfait, conçu pour répondre aux besoins des hommes dans toutes les circonstances et les expériences de la vie. Il a plu à Dieu de transmettre sa vérité au monde par l'intermédiaire d'instruments humains. Il a lui-même, par son Saint-Esprit, qualifié ces hommes en les rendant capables d'accomplir cette œuvre. Il a guidé leur esprit dans le choix de ce qu'ils devaient dire et écrire. Ce trésor a été déposé dans des vases de terre, mais son origine est céleste. Ce témoignage est transmis au travers des expressions imparfaites du langage humain. Cependant, c'est le témoignage de Dieu. L'enfant de Dieu obéissant et croyant pourra y discerner la gloire de la puissance divine, pleine de grâce et de vérité. Dans sa parole, Dieu a transmis aux hommes la connaissance nécessaire à leur salut. Les saintes Écritures doivent être accueillies comme une révélation de sa volonté, infaillibles et revêtues d'autorité. Elles sont la norme du caractère, le révélateur des doctrines et la pierre de touche de l'expérience. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Cependant, le fait que Dieu ait révélé sa volonté aux hommes par l'intermédiaire de sa parole n'a pas rendu inutile la présence et la direction permanente du Saint-Esprit. Bien au contraire, notre Sauveur a promis cet Esprit pour qu'il ouvre cette parole à l'esprit de ses serviteurs, afin qu'ils soient éclairés et mettent en pratique ses enseignements. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la Bible, il est impossible que l'enseignement de l'Esprit soit contraire à celui de la parole écrite. L'Esprit n'a pas été donné, et ne pourra jamais l'être, pour remplacer la Bible. Les Écritures affirment explicitement que la parole de Dieu est la norme par laquelle doivent être éprouvés tout enseignement et toute expérience. L'apôtre Jean a déclaré « Ne croyez pas tout esprit, examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. » Ésaïe avait déclaré « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » L'œuvre du Saint-Esprit a été déconsidérée à cause des erreurs de certaines personnes qui, se prétendant illuminées par lui, affirment ne plus avoir besoin d'être guidées par la parole de Dieu. Ces personnes sont influencées par des impressions qu'elles considèrent comme la voix de Dieu dans leur âme. Mais l'Esprit qui les dirige n'est pas l'Esprit de Dieu. Suivre ses propres impressions tout en négligeant les Écritures ne peut mener qu'à la confusion, à la fraude et à la perdition. C'est ainsi que les plans du malin sont favorisés. Car puisque le ministère du Saint-Esprit est d'importance vitale pour l'Église du Christ, l'un des stratagèmes de Satan, en utilisant les erreurs des extrémistes et des fanatiques, est de discréditer l'œuvre de l'Esprit et d'amener le peuple de Dieu à négliger cette source de force que notre Seigneur lui-même nous a offerte. En plein accord avec la parole de Dieu, son esprit devait poursuivre son œuvre pendant toute la période de la dispensation évangélique. Au cours des siècles durant lesquels les Écritures, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, furent données au peuple de Dieu, le Saint-Esprit communiqua sans cesse sa lumière à des hommes particuliers, en dehors des révélations consignées dans le canon sacré des Écritures. La Bible elle-même nous rapporte comment, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, des hommes reçurent des avertissements, des réprimandes, des conseils et des instructions dans des domaines sans rapport avec la révélation des Écritures. Il y est fait mention de prophètes ayant vécu à des époques différentes et dont aucune déclaration ne nous a été rapportée. De même, après la clôture du canon des Écritures, le Saint-Esprit devait poursuivre son œuvre pour éclairer, avertir et réconforter les enfants de Dieu. Jésus a fait cette promesse à ses disciples. C'est le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il vous annoncera ce qui est à venir. L'Écriture enseigne clairement que ces promesses, loin de se limiter à la période apostolique, concernent l'Église du Christ dans tous les siècles. Le Sauveur a donné cette assurance à ses disciples. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Paul déclare que les dons et les manifestations de l'Esprit ont été placés dans l'Église afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ce même apôtre faisait cette prière en faveur des croyants d'Éphèse. « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons. » Le ministère de l'Esprit divin, qui devait illuminer l'intelligence et ouvrir l'esprit aux profondeurs de la sainte parole de Dieu, telle était la bénédiction que Paul réclamait au Seigneur pour l'Église d'Éphèse. Après la merveilleuse manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Pierre exhorta le peuple à se repentir et à se faire baptiser au nom du Christ pour le pardon des péchés. Il ajouta « Vous recevrez le don de l'Esprit-Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » En rapport direct avec les scènes du grand jour de Dieu le Seigneur, par la bouche du prophète Joël, a promis une manifestation spéciale de son esprit. Cette prophétie ne fut accomplie que partiellement, lors de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, mais elle attendra son plein accomplissement dans la manifestation de la grâce divine qui accompagnera l'œuvre finale de l'Évangile. Le grand conflit entre le bien et le mal ne fera que s'intensifier jusqu'à la fin des temps. De tout temps, la colère de Satan s'est manifestée contre l'Église du Christ, mais Dieu a répandu sa grâce et son esprit sur son peuple pour le fortifier et lui permettre de résister au pouvoir du malin. Lorsque les apôtres du Christ partirent pour apporter son évangile au monde et le consignèrent par écrit pour tous les siècles à venir, ils reçurent une mesure spéciale de l'illumination de l'esprit. Mais, à mesure que l'Église approchera de sa délivrance finale, Satan œuvrera avec de plus en plus de puissance. Il est descendu en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Il opérera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Pendant 6 millénaires, ce génie, autrefois le plus élevé parmi les anges de Dieu, a concentré toute son énergie sur son œuvre de tromperie et de destruction. Toutes les techniques et les subtilités sataniques, toute la cruauté qu'il a développée au cours de ses luttes séculaires, seront dirigées contre le peuple de Dieu au cours du dernier conflit. Pendant cette période périlleuse, les disciples du Christ devront avertir le monde du second avènement du Seigneur, et tout un peuple, sans tache et sans défaut, devra être prêt à se tenir debout devant lui au moment de son avènement. À cette époque, le don spécial de la grâce et la puissance divine ne seront pas moins nécessaires à l'Église qu'au temps des apôtres. Par l'illumination du Saint-Esprit, les scènes de ce long conflit entre le bien et le mal m'ont été révélées. À diverses reprises, le Seigneur m'a permis de contempler, étalé sur différents siècles, le déroulement du grand conflit entre le Christ, le prince de la vie, l'auteur de notre salut, et Satan, le prince des puissances du mal, l'auteur du péché et le premier transgresseur de la sainte loi de Dieu. L'inimitié de Satan contre le Christ s'est manifestée aussi contre ses disciples. La même haine des principes divins et la même politique frauduleuse présentant l'erreur comme la vérité, qui font prévaloir les lois humaines sur celles de Dieu en amenant les hommes à adorer la créature plutôt que le Créateur, se retrouve dans toute l'histoire du passé. Les efforts de Satan pour dénaturer le caractère de Dieu, pour conduire les hommes à entretenir une fausse conception de sa personne et le considérer avec crainte et haine plutôt qu'avec amour, sont là des tentatives pour écarter la loi divine et amener ainsi les hommes à se sentir libres des exigences de celle-ci. Les persécutions que Satan a inspirées contre ceux qui osent résister à ses fraudes ont persisté régulièrement à travers les siècles. On peut les faire remonter à l'histoire des patriarches, des prophètes, puis des apôtres, des martyrs et des réformateurs. Dans le grand conflit final, Satan utilisera la même ruse, manifestera le même esprit et visera le même but que dans les siècles passés. Ce qui a été sera, avec cette exception que la lutte à venir sera marquée par une intensité terrible, telle que le monde n'en a encore jamais vue. Les pièges de Satan seront plus subtils, ses assauts plus déterminés. Si c'était possible, il égarerait même ceux qui ont été choisis. Lorsque l'Esprit de Dieu a révélé à mon esprit les grandes vérités de sa parole, ainsi que les scènes du passé et de l'avenir, il m'a ordonné de faire connaître aux autres ce qui m'a été ainsi montré, de raconter l'histoire de ce conflit tout au long des siècles passés, et surtout de la présenter de manière à mettre en lumière la lutte encore à venir, et qui approche à grands pas. Pour réaliser cet objectif, je me suis efforcé de choisir et rassembler des événements de l'histoire de l'Église qui décrivent le développement des grandes vérités destinées à nous mettre à l'épreuve. Ces vérités, données au monde à différentes époques, ont excité la colère de Satan et l'inimitié d'une Église mondanisée, mais ont été préservées par le témoignage de ceux qui n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Dans ces récits historiques, nous pouvons entrevoir le conflit qui se prépare. En les observant à la lumière de la parole de Dieu et par l'illumination de son esprit, nous pouvons voir les stratagèmes du malin démasqués et discerner les dangers que nous devons éviter pour être trouvés sans tache devant le Seigneur lors de son avènement. Les grands événements qui ont marqué les progrès de la réforme dans les siècles passés font maintenant partie de l'histoire. Ils sont bien connus et universellement reconnus par le monde protestant. Ce sont des faits que personne ne peut contester. J'ai très succinctement présenté ces événements, en accord avec le volume prévu pour ce livre et avec la brièveté qui devait nécessairement être respectée. J'ai résumé les faits autant que possible, tout en permettant une compréhension appropriée de leur application. Dans certains cas, lorsqu'un historien avait rassemblé des événements pour pouvoir donner une vue d'ensemble du sujet, ou avait résumé les détails de manière satisfaisante, j'ai cité ses paroles. Mais, dans d'autres, je ne l'ai pas mentionné nommément, car les citations ne sont pas ici données dans le but de présenter cet auteur comme une autorité, mais parce qu'elle nous offre une présentation claire et vigoureuse du sujet. J'ai fait un usage similaire des écrits de ceux qui poursuivent l'œuvre de réforme à notre époque, en rapportant leurs expériences et leurs opinions. L'objet de ce livre n'est pas tellement de présenter de nouvelles vérités sur les luttes du passé, mais plutôt de mettre en relief des faits et des principes qui peuvent avoir une incidence sur les événements à venir. Cependant, considéré comme faisant partie du conflit entre les forces de la lumière et celles des ténèbres, tous ces récits du passé semblent acquérir une signification nouvelle. Par leur intermédiaire, un rayon de lumière est projeté sur l'avenir, illuminant le chemin de ceux qui, comme les réformateurs des siècles passés, seront appelés, même au risque de perdre leurs biens terrestres, à témoigner de leur foi à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Décrire les scènes de ce grand conflit entre la vérité et l'erreur, révéler les fourberies de Satan et les moyens de lui résister victorieusement, présenter une solution satisfaisante au grand problème du mal, en projetant une telle clarté sur l'origine et l'élimination définitive du mal, que la justice et la bienveillance de Dieu soient pleinement révélées dans toutes ses interventions en faveur de ses créatures, montrer le caractère saint et immuable de sa loi, tel est l'objet de ce livre. Que, par l'influence qu'il exercera, des âmes puissent être délivrées de la puissance des ténèbres et être rendues capables d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière, à la gloire de celui qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous, telle est ma prière fervente. Ellen G. White.